I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En fait, j'interprétais tout de suite ces pleurs comme de la douleur. C'était plus la nuit où c'était très difficile à gérer. Je pense que c'est la répétition et la fatigue qui aussi est du coup difficile à un moment donné d'accepter.
Les pleurs, c'est quelque chose qui remue beaucoup, qui nous renvoie à beaucoup de choses.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Je vous en prie, installez-vous.
Merci.
Alors Charlotte, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Je viens vous voir pour parler des pleurs de mon enfant.
Oui.
Voilà.
Il a quel âge votre enfant ?
Là, maintenant, il a 2 ans et demi.
D'accord.
Donc, ça va mieux, mais c'est vrai qu'il y a une période, surtout quand il était bébé, c'était très compliqué pour moi.
Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai eu beaucoup de mal à les comprendre, à les accueillir. Et puis surtout, après, ça dépendait de la journée. Enfin, c'était plus la nuit où c'était très difficile à gérer.
Mmh. Votre bébé pleurait plus la nuit ?
Oui, il a mis longtemps à faire ses nuits, 14 mois. Jusque-là, c'était très compliqué.
Donc il pleurait, ça vous réveillait ?
Oui, j'avais le sentiment qu'il fallait agir, en fait. Il fallait agir tout de suite pour essayer de le calmer. Et en fait, ce qui était le plus difficile, c'était quand j'essayais de le calmer, mais que ça ne le calmait pas. Mmh. J'avais l'impression d'avoir tout fait pour le calmer, mais ça ne le calmait pas forcément.
Ouais, qu'est-ce que vous pouviez faire, par exemple, pour essayer de le calmer ?
Je l'ai beaucoup... Donc j'ai utilisé l'écharpe de portage, j'ai utilisé le t-shirt pour faire peau à peau, ça c'est quand il était tout bébé. Mmh. Après, quand il était plus grand, je le berçais beaucoup en chantant tout plein de chansons, une comptine. Je lui frottais le dos aussi, quand il était dans son lit, parfois, pour le calmer. Et j'essayais aussi, voilà, de dire je suis là, enfin d'avoir des paroles.
De lui parler.
Oui.
Est-ce que ça marchait ?
Oui, il y en a notamment le porter et le mettre contre, faire un câlin et puis chanter des chansons, ça marchait pas mal. Mm-hmm. Mais des fois, c'est vrai que là, ça fonctionnait pas et là, je me sentais, enfin, si ça fonctionnait pas, là, je me sentais vraiment désarmée en fait.
Mm. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passait en vous quand votre bébé pleurait ?
On a un sentiment complètement d'impuissance, on ne sait pas quoi faire, d'angoisse aussi, parce que j'ai beaucoup lu sur la parentalité, mais en même temps, c'est un côté un peu... où je me souviens, j'avais lu une expérience où quand on laissait pleurer les enfants, leur cerveau se développait mal et tout ça, donc j'avais tout de suite l'image que j'étais en train de lui détruire les neurones.
Vous aviez le sentiment d'être une mauvaise mère parce que votre bébé pleurait ?
Oui. En fait, j'interprétais tout de suite ces pleurs comme de la douleur, du stress, enfin des choses négatives en fait. Et pas juste comme une simple expression de j'ai faim ou j'ai soif, mais comme quand on peut le dire nous, ou même quand ils sont un peu plus grands, parce que là, il est 2 ans et demi. Et maintenant, je les accueille beaucoup plus facilement parce qu'il y a la parole qui est là et je comprends mieux. Et du coup, je l'accepte beaucoup mieux, le fait qu'ils pleurent. Je les accueille 10 fois mieux.
qu'au tout début.
C'est la parole pour vous, l'arrivée de la parole chez votre enfant qui a permis d'accepter les pleurs?
Oui, franchement. Enfin, la parole, parce qu'à 9 mois, baragouiné, quoi, c'était pas encore très compréhensible. La manière dont il s'exprimait, même avec ses gestes, c'était plus
compréhensible. Vous compreniez mieux ce qu'il voulait vous dire, ou ce qu'il manifestait, ou ses besoins, et du coup c'était plus facile pour vous d'y répondre, et du coup d'accepter les pleurs.
Tout à fait. Oui, c'est ça. Après, il y a eu aussi un épisode où c'était vraiment très 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 souvent, à tel point que j'ai fini par prendre mon portable, enfin c'était la nuit, et noter les heures, et en fait tous les 5 minutes il pleurait. Donc avec la fatigue, voilà. Et en fait, il y avait, je suis allée chez le médecin et voilà, je dis bon bah voilà, il se passe ça la nuit. Et en fait, il y avait un problème de reflux. Donc il n'a pas aidé non plus à accepter, je pense, les pleurs, quoi. Et après, une fois qu'on a traité le reflux, c'était beaucoup plus viable, en fait. Je pense que c'est la répétition et la fatigue qui aussi est du coup difficile à un moment donné d'accepter.
Oui. En tout cas, j'entends que ça a été particulièrement éprouvant, cette intensité, et que finalement, une fois qu'il y a eu aussi, au niveau médical, voilà, quelque chose, en tout cas un diagnostic de fait pour votre fille, ça vous a permis, en tout cas, de l'apaiser lui, et puis du coup, de vous apaiser vous.
Oui, tout à fait.
Vous sentiez dans ses pleurs qu'il avait mal?
Le problème, c'est que dès qu'il pleurait, moi, je l'associais forcément à « il a mal » ou « il est pas bien ». Alors que peut-être que des fois aussi, par exemple, la nuit, il faisait des micro-réveils. Mm-hmm. Et en fait, au lieu de laisser, de voir si ça continuait, si ça s'intensifiait, tout de suite, j'intervenais, en fait. Et du coup, je pense que j'ai loupé aussi des choses comme ça, où j'aurais pu juste le laisser ou juste poser la main. Et que du coup, il se rendorme. Alors que j'étais tout de suite dans l'intervention. En gros, il ne faut pas qu'il pleure. Enfin,
vous étiez dans l'objectif d'éviter qu'il pleure.
Oui.
Il ne fallait pas qu'il pleure.
Oui, c'est ça. Alors que maintenant, c'est vraiment... Oui, j'accepte qu'il pleure, vraiment. Et je l'accompagne. Et effectivement, je vois les bénéfices que c'est de l'accompagner, parce que, en tout cas, ça ne dure pas, quoi.
Comment vous faites aujourd'hui pour l'accompagner?
Je fais câlin. Enfin, il y a un contact. Il y a un contact où je l'enlace. Et puis, j'essaye de verbaliser ce qu'il ressent. Par exemple, ah bah oui, là, t'es en colère parce que t'aurais vu la petite voiture rouge, ou t'aurais aimé qu'on aille au parc, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, des choses comme ça. J'essaye de mettre des mots sur ce qu'il ressent et je l'accompagne. Je coupe pas, en fait. Je dis pas stop, tais-toi, arrête, ça, je le fais. Non.
C'est des choses que vous avez pu faire?
Pas tant que ça, parce que là-dessus, j'ai vraiment cheminé de par ma vie perso, mais aussi ma vie pro, où je suis en contact d'enfants, et que du coup, j'ai cheminé aussi là-dessus.
Si vous travaillez avec des enfants, est-ce que les pleurs des autres enfants étaient déjà quelque chose de difficile pour vous avant d'avoir votre enfant?
A contrario, non. Et c'est ça aussi qui m'était encore plus en difficulté. Parce que du coup, je sais gérer d'autres enfants. Assez facilement, je me sens à l'aise. Et en même temps, un tout seul me met en difficulté.
Là, le lien n'est pas le même.
Le lien est différent. Et il y a aussi, je pense, cette pression que je me mets. À la fois, il y a la pression de l'entourage aussi. Je pense que le regard de l'entourage, j'ai pas su m'en affranchir. Donc ça, ça joue.
Quel a été le regard de l'entourage par rapport aux pleurs de votre bébé?
J'ai l'impression d'avoir nagé à contre-courant, c'est-à-dire que c'était laisse-le pleurer, les classiques, faut faire les poumons, il va jamais savoir s'endormir tout seul, des choses comme ça. Donc du coup,
qu'est-ce que ça vous faisait quand on vous disait ça?
Je me sentais seule. je me sentais jugée. Je me souviens d'un épisode où en fait, je devais aller le mettre à la sieste. C'était un repas de famille et ça prenait du temps et Et je suis descendue et il y a mon oncle qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais cette tête ?» Parce que je sais que je n'avais pas pris le temps qu'il fallait prendre normalement pour le coucher, de peur du regard de la famille. Donc je ne m'étais pas respectée, j'avais pas respecté Jean.
Vous sentiez jugée dans cette volonté que vous aviez, si je comprends bien, d'être là, de ne pas le laisser pleurer?
Oui, complètement. Et donc du coup, nager à contre-courant,
c'est aussi coûteux émotionnellement et en énergie. Mmh. Donc voilà. Mmh.
Votre conjoint, lui, comment il a vécu voilà, les pleurs de votre bébé et...
Je pense qu'il a mieux vécu. C'était plutôt moins ma responsabilité. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ça restait un peu mon problème, entre guillemets. Pas qu'il ne s'investisse pas, mais c'était, il a besoin de maman. Enfin, voilà, il se protégeait un petit peu plus.
Il y avait, si je comprends bien, comme une répartition des rôles où c'est vous qui deviez prendre en charge la question des pleurs.
Il le faisait au départ, mais si par contre il se sentait démuni, il passait le relais. C'est arrivé aussi l'effet inverse.
Ouais.
Mais dans ces cas-là, moi, c'était où j'étais en mode rupture. C'est-à-dire que là, c'était vraiment...
Vous n'en pouviez plus.
Voilà.
Est-ce que vous avez l'impression que pour lui, le fait d'entendre votre enfant pleurer, ça pouvait le remuer comme vous, ça vous remuait ?
Non, je ne pense pas. Il va me dire que moi, je suis plus sensible que lui. Voilà. Et en même temps, ce qui est marrant, entre guillemets, à contrario, c'est que maintenant, il supporte moins les pleurs de mon enfant que moi. C'est moi qui lui dis, mais enfin, écoute-le, il est plus dans le frontal ou il faut faire ce que j'ai demandé. Enfin, je sais pas ce qu'il interprète forcément là, ses pleurs pour un refus d'obtempérer, entre guillemets. Je sais pas si c'est le bon terme, mais enfin voilà.
Une manifestation d'opposition.
Oui, que n'accepte pas forcément mon conjoint. Et que moi, je suis plus là pour le coup, je trouve que j'arrive plus à gérer. En tout cas, j'ai plus de patience pour écouter l'émotion qui se cache derrière ces pleurs-là.
Vous parliez tout à l'heure du sentiment d'impuissance, des moments aussi où vous avez été débordée, voilà, vous n'en pouviez plus, des moments où vous avez utilisé le mot rupture. À quoi ça vous a connecté en vous? Qu'est-ce que ça venait toucher en vous lorsque votre bébé pleurait?
Quand il y a rupture, il y a un sentiment de violence en moi qui est là.
Ouais.
Une incapacité de faire, donc un sentiment aussi de je suis nulle, je ne suis pas capable de gérer, de répondre aux besoins de mon enfant, je ne le comprends pas, je n'ai pas assez de patience. Enfin voilà, où là, je charge le sac à dos.
Oui, donc ce qui se passait en vous, à ce moment-là, c'était plein de pensées négatives à votre sujet par rapport à votre rôle de mère.
Oui, complètement.
Comme si presque vous deveniez lui, un peu, que à nouveau vous pouviez vous reconnecter à quelque chose, vous du bébé que vous avez été, par exemple.
C'est possible. Après ça, je ne l'ai pas forcément conscientisé, mais c'est possible. En tout cas, maintenant, plus, oui, quand je vois mon conjoint faire, ou même un membre de ma famille dire « tais-toi » ou « t'es méchant » ou « t'es pas gentil », enfin... pour essayer de stopper une colère, des pleurs de colère, là, ça me contacte en moi quelque chose qui est un semblant de vécu, oui.
Vous savez comment ça s'est passé pour vous quand vous étiez bébé? Est-ce que vous avez beaucoup pleuré ou pas?
Non, j'avoue, là, je sais pas trop. Par contre, on me mettait dans le lit et on fermait la porte.
Votre conjoint, il était en accord avec vous sur cette manière de faire, voilà, différente de finalement celle de vos parents?
Il m'a suivi, oui. C'est pas la première approche qu'il aurait faite, mais il m'a complètement suivi dans toute cette démarche de parentalité. Voilà. Il a même fait le t-shirt du pot à pot. Enfin voilà. Il n'était pas acteur.
Oui. Vous étiez motrice et puis il faisait.
Oui.
Pour faire face aux difficultés que vous avez rencontrées, est-ce que vous avez sollicité des professionnels de santé? Alors, vous parliez du pédiatre de votre enfant. Est-ce que, voilà, déjà, ce professionnel à qui vous avez parlé de vos difficultés, est-ce que vous êtes sentie entendue, accompagnée par lui?
Dans un premier temps, non. Parce que j'ai dû vraiment, comme je vous dis, noter une nuit ce qui se passait réellement pour qu'en gros, on me croit en disant « Ah oui, effectivement, c'est pas une nuit normale, classique d'un bébé. Voilà. »
Donc le pédiatre a mis longtemps à entendre que votre bébé il pleurait beaucoup.
Oui.
Et que c'était difficile.
Oui. Oui. Après, j'en avais parlé aussi à une amie qui m'avait préconisé, voilà, de quand c'était trop, valait mieux poser le bébé par terre, enfin par terre ou sur un tapis, ou enfin voilà, là où il est en sécurité, et quitter la pièce
avec, au mieux, enfin, ce qui serait le mieux, c'est au top, c'est en verbalisant, en disant c'est trop pour moi, je te laisse, je vais revenir, mais j'ai besoin d'une soupape, que de passer la colère sur le bébé.
Bien sûr. Vous vous êtes sentie soutenue du coup par des amis, maman peut-être, voilà, qui.
Oui, amis, maman, oui. Oui.
Qui ont pu du coup partager avec vous, voilà.
Tout aussi, à fait.
Peut-être les mêmes difficultés, les mêmes ressentis.
Mais après, qui étaient aussi dans la même démarche que moi, à se questionner sur la parentalité, à essayer de. Par rapport à la parentalité positive, etc. Voilà. Après, j'ai fait appel aussi à un professionnel. Sans pour autant parler de ce sujet-là précisément, mais on a décortiqué, j'en avais pas forcément conscience qu'on se met des petites graines, mais qu'après...
Quelles petites graines vous semez ?
Écouter les émotions, ça c'est des choses que je ne faisais pas du tout avant, et que je ne connaissais pas aussi, voilà, que je connaissais pas du tout. Et ça, je le vois que ben, des fois, je me surprends. Là, oui, je sais le faire maintenant dans mon monde professionnel, mais je sais le faire aussi avec mon enfant. Et parfois, je dis à mon conjoint, tu vois, je fais là, par exemple. Peut-être que ça peut être cette solution-là plutôt que de dire tais-toi ou enfin.
Oui, en tout cas, j'entends que vous avez développé toute une réflexion. Voilà, autour de votre positionnement parental, j'entends avec votre conjoint, vous parlez de parentalité positive, de communication non violente. En tout cas, vous avez essayé de chercher des outils pour vous aider à accepter, gérer les émotions de votre enfant.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il vous a manqué quelque chose quand votre bébé pleurait beaucoup? Est-ce que vous auriez eu besoin de quelque chose à ce moment-là que vous n'avez pas eu?
Qu'on me rappelle que pour un bébé, pleurer, c'est son langage de communication. Ça peut être très basique, mais en fait, comme je tombais toujours dans « il a mal », dans quelque chose de négatif, j'étais plus dans « je veux sauver mon bébé », en fait. Alors qu'en fait, c'était juste peut-être une expression normale, et donc ça m'aurait peut-être permis déjà de mieux le vivre et de moins intervenir aussi. J'entends... s'il a soif, de lui donner à boire, mais voilà, d'être moins dans je vais sauver mon bébé, il est en danger, Malheureusement, j'ai l'impression que ça s'apprend aussi avec l'expérience, quoi. À force de l'entendre, en fait, c'est une rencontre, donc au début, c'est peut-être ça qui est difficile, c'est qu'au début, on n'a pas les codes de l'un ou de l'autre, quoi, et ça se construit
dans le temps. Merci, Charlotte. Je vous propose maintenant qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte Aurélie Roca, qui est psychothérapeute et qui va nous éclairer un peu sur cette question des pleurs des bébés. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute. Vous accompagnez depuis plus de 10 ans des parents sur les questions éducatives et les difficultés qu'ils rencontrent. Vous animez également des groupes autour de la parentalité à Puteau, en région parisienne. Comme Charlotte, moi je rencontre beaucoup de mamans dans mon cabinet qui vivent avec beaucoup de difficultés les pleurs de leur bébé. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, les pleurs des bébés?
Alors, en effet, les pleurs, c'est quelque chose qui remue beaucoup, qui nous renvoie à beaucoup de choses. Et on oublie souvent que, en effet, les pleurs, c'est vraiment le premier outil de communication des enfants et des bébés. C'est le seul outil qu'ils ont. Et comme souvent, on n'a pas eu nous-mêmes la possibilité d'être entendus dans nos pleurs, en fait, on ne sait pas comment faire avec ceux de notre enfant. Donc, en gros, les pleurs, il y a deux choses. Il y a les cris, où ça, c'est une réaction vive et soudaine. Et les pleurs qui sont vraiment une réaction face au stress et qui permet, en fait, de venir, en fait, évacuer toutes ces tensions que l'enfant a pu ressentir dans ses journées, dans ses moments qui sont très intenses pour les bébés, puisque notre monde est très stimulant. Et de permettre, qu'en fait, de recréer, en fait, une homéostasie et de les apaiser. Les pleurs sont bienvenus.
Ils sont importants.
Ils sont très importants
pour les bébés. Ils permettent vraiment au bébé de gérer les émotions qu'il vit.
Les émotions, exactement.
Et pouvoir les réguler.
Oui, tout à fait. Et donc, par contre, ce qui est très important, c'est que souvent les parents, ils se disent, et Charlotte l'avait très bien exprimé, c'est que, comme on se dit, il y a un souci, il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc la première chose, en effet, c'est de voir s'il y a des besoins qui sont nécessaires à satisfaire, comme la faim, la soif, j'ai trop chaud, etc. Et après, si vraiment ça continue, c'est vraiment d'être présent et de répondre présent et d'être disponible pour son enfant, pour l'accompagner et lui permettre, on va dire, vraiment d'évacuer ce trop-plein et de recréer quelque chose d'une situation pour lui qui soit juste à l'intérieur.
Charlotte nous a parlé des pleurs la nuit. Là, rapidement, vous avez parlé des pleurs de fin de journée, en tout cas les pleurs de décharge. Alors, oui. Moi, j'ai beaucoup de mamans qui me parlent de ces pleurs-là.
Qu'on appelle les coliques.
Ouais, qu'on appelle les.
C'est vraiment des pleurs de décharge. C'est une accumulation de stress continu en fait sur la journée et le soir en fait, il y a vraiment quelque chose de physiologique qui se joue sur. Enfin, j'ai presque envie de dire chez tous les bébés, qui est un moment de relâchement, de tension, etc. Et donc ça se manifeste par des pleurs. Et ça, c'est un moment qui peut être souvent très déstabilisant pour les parents. Parce que pas évident et en effet c'est comment je peux me rendre disponible à ce moment-là où on n'est pas toujours disponible pour pouvoir accompagner au mieux mon enfant.
Au niveau du cerveau, alors Charlotte nous a parlé voilà qu'elle s'était questionnée par rapport à ça. Voilà, au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe quand un bébé il pleure?
Alors, quand un bébé pleure, en fait, c'est vraiment l'amygdale qui se met en mouvement. C'est un signal qui dit attention, là j'y vais. Et après, ça génère en fait donc tout un mouvement au niveau du cerveau de réaction physiologique. Et notamment, ça engendre donc il y a le cortisol, de la noradrénaline et de l'adrénaline en fait qui se mettent vraiment en mouvement. Et si le bébé est seul, en fait, il fait face. Enfin, il est que avec tout ça qui se passe dans son cerveau, c'est une explosion en fait. Donc lui, ce qu'il dit, c'est panique à bord. Et donc, quand il est tout seul, c'est « je suis paniquée, il n'y a personne, au secours ». Et la présence de quelqu'un, en fait, lui permet vraiment de le rassurer, de sentir cette présence. Ça, en fait, ça va l'aider à libérer aussi de l'ocytocine qui, elle, va permettre de réguler, en fait, ce torrent d'hormones qui sont trop fortes, en fait.
D'accord. Voilà. Donc là, vraiment, déjà, vous nous dites vraiment l'importance de les accompagner et de ne pas laisser un bébé seul pleurer.
Oui, de la présence de quelqu'un, c'est vraiment très important.
Tous les bébés, ils pleurent pareil ou à la même intensité ou parfois on parle aujourd'hui beaucoup des bébés baby, des bébés aux besoins intenses.
Non, je pense que tous les bébés ne pleurent pas de la même façon. Chaque enfant est unique. Chaque enfant arrive avec son expérience pendant la grossesse, le vécu de sa naissance. Enfin, il y a plein d'éléments, d'événements et son tempérament aussi qui vont faire qu'un enfant va pleurer plus ou moins. Mais voilà, pour moi, je redis, c'est ce qui est important, c'est ces pleurs sont importants d'être accompagnés. Et après, on va y faire face de différentes façons, mais c'est vraiment chaque enfant est unique.
Différemment.
Voilà, différemment, est unique.
Alors, Charlotte nous en a un peu parlé. Voilà, en tout cas, ce qui vous a mis en difficulté, c'était quand il était bébé. Et puis aujourd'hui, à 2 ans et demi, vous avez acquis de l'expérience, vous avez développé, acquis aussi des outils pour vous aider, mais que peut-être les pleurs aussi ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge de l'enfant.
Oui. Moi, ce que je vois, c'est que souvent, ce qui est déroutant, et vous l'avez exprimé, Charlotte, c'est que quand ils sont petits, en fait, on n'a pas toujours les clés de compréhension. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où il grandit, on apprend à connaître son enfant, à savoir comment il fonctionne, mais aussi, d'une certaine façon, on apprend, il commence à parler ou à signer pour les parents qui mettent en place le langage des signes. Et donc, ça, c'est rassurant et ça fait moins peur. En fait, ce qui fait peur, c'est de pas avoir, avec notre cerveau d'adulte, de se dire, je comprends. Parce que là, en fait, il pleure parce qu'il a soif. Je comprends, là, il pleure parce qu'il a faim, etc. Et donc, le fait qu'on n'ait pas forcément ce décodage tout de suite, ça peut générer des inquiétudes et des stress et de l'impuissance aussi à certains moments, de ne pas savoir exactement qu'est-ce qui se passe.
Oui, ça, Charlotte, c'est quelque chose que vous avez bien dit à travers ce sentiment d'impuissance. Et...
Oui, parce que je reviens sur les coliques, entre guillemets. Donc, quand il était bébé, il a eu ça. Et enfin, c'était pas des coliques, mais ses pleurs vers 18h, c'était très compliqué. Et je les ai pas bien vécues. Alors qu'à 9 mois, il était chez la nounou. Et on rentrait de chez la nounou, c'était systématique. Il fondait en larmes. Non pas qu'il n'était pas bien chez la nounou, je suis sûre qu'il y est très bien, etc. Il a passé une très bonne journée. Mais vraiment, là, j'ai vraiment identifié, voilà, je décharge. Et là, par contre, j'arrivais très bien à accueillir ça. On restait 10 minutes assis par terre dans le couloir. Voilà, il déchargeait, puis hop, après, c'était parti. Alors que quand il était vraiment tout bébé, je me suis en plus, il y avait des copines qui étaient venues et c'était très très dur.
Comme vous nous avez dit, Aurélie, voilà, les pleurs, c'est avant tout le premier outil de communication du bébé. Alors, voilà, vous nous avez parlé de la décharge de stress, voilà, pour retrouver un équilibre, sa manière aussi d'exprimer ses besoins, la faim, la soif, le sommeil, l'ennui, peut-être l'inconfort aussi physique. Qu'est-ce que ça peut dire d'autre, les pleurs du bébé?
Ça reste vraiment la communication. Après, ça peut aussi être de la douleur. Et donc, c'est là où ce que vous partagez, Charlotte, c'était vraiment intéressant. C'était de se dire, il y a en effet une intensité, il y a un temps. Enfin, il y a quand même des choses qui, à un moment donné, nous met la puce à l'oreille quand tout d'un coup, c'est vraiment trop. Mmh. Où là, c'est important vraiment de se dire et faire confiance vraiment à vos, j'ai envie de dire, à vos tripes de maman, de dire là, je sens que c'est pas juste. J'ai faim, j'ai soif, j'ai ma couche qui est sale, ou
j'ai besoin d'un câlin,
ou j'ai besoin de décharger. Il y a quelque chose qui dit, il y a autre chose. Et donc là, je trouvais que c'était vraiment intéressant de se dire non mais là c'est tout le temps il y a quelque chose qui va pas là.
En tout cas Charlotte, vous avez bien dit voilà que c'était difficile de faire entendre cette chose que vous ressentiez, voilà, où il y avait autre chose, voilà,
déjà
de l'entendre pour vous, de le comprendre et puis de le formuler là par exemple au pédiatre.
Bah oui, et puis en plus le pédiatre m'a déjà dit que les parents ne supportaient plus les pleurs des bébés, donc en fait faut justifier que c'est pas juste un ressenti, mais que clairement, enfin, il y a un problème.
Donc voilà, les pleurs sont un outil de communication, sont nécessaires d'ailleurs à la survie du bébé pour qu'on le nourrisse, voilà, qu'on lui donne.
Le petit homme arrive, il est pas très mature. Mmh. J'ai envie de dire, il peut pas survivre seul. Ouais. Donc les pleurs sont vraiment là pour dire, donne-moi à boire ou donne-moi à manger. Donc c'est vraiment important de les écouter. Ouais.
Mais c'est aussi le moyen d'exprimer qu'il y a une douleur, qu'il y a un problème, qu'il y a une détresse, un danger.
Oui, exactement. Oui.
Moi, j'observe aussi, souvent, les pleurs du bébé peuvent être un signe d'alerte aussi d'une souffrance chez la maman.
Oui, tout à fait. Moi, je le vois aussi, je le perçois aussi comme une manifestation de l'enfant pour maintenir la maman un peu en mode genre « Ouh, je suis là !» et vraiment de dire, de pas faire en sorte que la maman se lâche, en fait. Et donc, mais c'est d'autant plus douloureux pour la maman parce qu'elle se sent pas disponible.
Oui, les bébés qu'on peut appeler bébés réanimateurs, parfois, de venir stimuler la mère pour qu'elle, celle-ci reste en lien.
Oui.
Mais comme le lien est difficile, elle se sent pas adapté et en difficulté pour répondre aux besoins de son bébé, donc celui-ci va lui manifester et du coup on rentre dans une boucle un peu infernale parfois, et en tout cas très douloureuse.
Et d'où l'importance de pas rester, enfin quand on sent qu'il y a quelque chose qui est trop et qu'on sent vraiment en difficulté, de pouvoir le partager. Enfin vraiment c'est entre maman et entre parents, de pas hésiter à pouvoir dire là au secours, j'y arrive pas, d'avoir vraiment une bonne copine qu'on peut appeler à toute heure en disant là j'en peux plus, enfin de pas rester seule avec ça, parce que oui c'est pas évident. Hein, on pourrait croire que c'est facile, etc., qu'il suffit d'être dans une bonne disposition pour accueillir les pleurs de son enfant, mais non, ce n'est pas la réalité. C'est prenant, c'est déroutant, ça peut réveiller des choses en nous, de notre histoire, qui ne sont pas évidentes. Donc c'est important vraiment de ne pas hésiter à créer du réseau et du lien avec d'autres personnes.
Oui, en tout cas, Charlotte, vous nous avez dit, voilà, ce conseil d'une amie, voilà, si t'en peux plus, tu le poses et tu fermes la porte, voilà. Alors, si possible, en lui disant, en le nommant, vous aviez parlé aussi du relais, voilà. L'importance aussi, à un moment donné, quand on n'en peut plus, voilà, de passer le relais, parce que, voilà, il arrive aussi, voilà, que ces bébés qui manifestent beaucoup, qui pleurent beaucoup. Vous avez parlé aussi de la violence, voilà, ou de l'agressivité que ça pouvait susciter. Et voilà, se sentir agressé par son bébé, ce qui peut parfois amener, malgré soi, de la maltraitance ou de secouer son bébé dans l'idée finalement qu'on a envie que ça s'arrête.
C'est ça, j'espère que ça s'arrête parce qu'on n'en peut plus. C'est insupportable. En fait, ça devient vraiment insupportable.
Évidemment, à ce moment-là, la maman n'est pas du tout dans la dimension de faire du mal à son bébé, mais voilà, on sait que ça peut être très dangereux, d'où l'importance, voilà, de mettre le bébé en sécurité, dans son lit par exemple, ou de passer le relais, quoi. se mettre à distance.
Oui, tout à fait. C'est de ne pas jouer, j'aime bien dire, les warriors. On a nos limites aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est, on n'est pas parfait, les parents ne sont pas parfaits, et ce n'est pas l'idée. C'est de faire au mieux avec ce qu'on est, et ce n'est pas parce que là, j'en peux plus, et que mon bébé, donc, je le mets en sécurité, et je sors une bonne de la pièce pour souffler, prendre ma respiration, que je l'abandonne. C'est de se dire derrière, je peux en reparler avec lui, je peux remettre des mots avec lui en lui disant, là vraiment, j'étais plus disponible, j'en peux plus, c'est compliqué pour moi, etc. Et c'est OK aussi de reconnaître qu'on a nos vulnérabilités, qu'on a nos, voilà, nos limites, et on, c'est important ça aussi.
À parentalité, on dit, les parents parfaits n'ont pas d'enfants.
Bah oui, c'est ça. Tout à fait ça.
Charlotte nous a parlé du reflux, voilà, que les pleurs des bébés, notamment la nuit, pouvaient être le signe de reflux. Est-ce que voilà, ça peut être le signe d'autres problématiques ou difficultés plus somatiques ?
Pour les pleurs la nuit, c'est souvent quand il y a reflux. C'est les parents font souvent ce lien en se disant la journée ça va parce que finalement l'enfant est beaucoup plus à la verticalité la journée où il est porté. Quand il est dans la poussette, en général, il est semi assis. Enfin voilà, donc c'est des postures finalement qui font que la journée ça passe. Mais la position allongée, c'est là où en général ça se manifeste. Donc si les nuits vraiment s'il y a beaucoup de réveil, en effet, c'est important de d'en parler à un pédiatre et d'insister un petit peu en disant que là, voilà, qu'il y a quelque chose qui vous interpelle vraiment. Parce que les réveils la nuit, oui, mais quand c'est vraiment tout le temps, c'est qu'il y a peut-être autre chose derrière.
Bien sûr. Là, je pense à une maman que j'accompagne aussi et qui a eu une grossesse, un accouchement particulièrement difficile. Est-ce que voilà, ça aussi, c'est des choses que vous observez, Aurélie ?
Oui. Oui. Alors bien souvent, ce qui se passe, c'est quand il y a des grossesses ou des naissances qui sont compliquées, les bébés expriment beaucoup les premiers temps. Et donc là, justement, le fait d'accompagner les pleurs, c'est aussi, ça peut leur permettre en fait de réparer, on va dire, cette blessure de la grossesse et de l'accouchement. Donc c'est aussi faire confiance aux pleurs qui sont vraiment, qui guérissent. Hein, je veux dire, vraiment, ça permet. Enfin, on voit bien. Moi, je vois dans mon cabinet, les adultes arrivent et quand ils pleurent sur une douleur, sur un vécu, etc. Après, ça va mieux. Donc il y a vraiment cette chose de dire que les pleurs, les larmes, elles sont là aussi pour guérir. Donc un bébé qui pleure et qui est accompagné par rapport à une expérience douloureuse qu'il a pu avoir, c'est se dire que là, il y a quelque chose qui peut le soulager, qui peut guérir au niveau de, si on met le gros mot, traumatisme. Mais voilà, c'est donc la et maman peut en parler aussi.
Le pleur de décharge et puis tout l'accompagnement, le lien avec les parents là qui va être important.
Ouais, complètement. Parce que ça joue aussi quand vous parlez de lien, c'est quand mon enfant pleure et que je réponds présent, c'est aussi une façon de créer l'attachement en fait. C'est une façon de lui dire tu pleures, je suis là, il y a quelqu'un, tu es pas tout seul. Et donc l'enfant lui c'est comme ça qu'il va créer sa sécurité aussi. C'est je pleure, j'ai une réponse. Je pleure, j'ai quelqu'un qui est là. Et au fur et à mesure, il va pouvoir se dire bon donc en fait quand il y a quelque chose qui va pas, je sais que je peux appeler au secours, je peux demander de l'aide, etc., et qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour moi. Donc ça lui donne aussi des ressources pour pouvoir, plus tard, on va dire, manifester, aller chercher de l'aide, etc. Donc c'est vraiment ce qui permet vraiment de créer ce lien et cet attachement et cette sécurité intérieure pour l'enfant.
Bien sûr. Charlotte, voilà, vous nous avez parlé de toutes les émotions désagréables, hein, l'impuissance, l'épuisement, l'angoisse. Est-ce que, voilà, parfois, il y a aussi des mamans qui parlent de sensations physiques désagréables, même le sentiment d'oppression, l'envie de pleurer. Moi, ça arrive souvent que des mamans me disent « je finis par pleurer avec mon bébé ». Est-ce que c'est des choses aussi que vous avez pu vivre, Charlotte ?
Oui, tout à fait. Oui.
Vous disiez, Charlotte, tout à l'heure que votre pédiatre vous a dit que les mamans d'aujourd'hui, ou les parents d'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas que les mamans, mais les parents d'aujourd'hui ont plus de difficultés à supporter les pleurs des bébés. Oui. Aurélie, est-ce que vous partagez aussi cette observation ?
Alors, est-ce qu'ils ont plus de difficultés ? Je ne serais pas aussi radicale. Moi, je pense, parce que je pense que la génération, on va dire 80, etc., et même avant, c'est les bébés pleuraient tout seuls. Donc, en fait, au final, ils pleuraient plus au bout d'un moment, puisque ça servait à rien.
Donc je pense souvent qu'ils débranchent la prise.
Ils débranchent la prise, exactement. Donc la génération d'aujourd'hui, c'est quand notre prise a été débranchée, bah c'est compliqué de j'ai envie de dire de pouvoir entendre l'autre. Si moi j'ai pas été entendue dans mes pleurs, dans mes colères, dans mes émotions, j'ai pas la disponibilité pour accueillir l'autre puisque je suis moi-même encombrée de tout ça. Et je reviens juste sur cette phrase que vous disiez cette maman qui pleure avec son bébé, et j'ai envie de dire c'est OK. Bienvenue à ça. Oui, vous avez le droit de pleurer avec votre enfant quand c'est difficile, etc. Parce que ça vient aussi permettre de réparer quelque chose chez vous. Donc, bienvenue. Est-ce qu'on a plus de mal? On a aussi beaucoup d'informations aujourd'hui sur ne pas laisser pleurer son enfant, sur comment il faudrait bien faire, etc. Les personnes sont plus en difficulté parce qu'ils ont le souci de bien faire, plus que de ne pas vouloir entendre pleurer leur enfant. Et après, ça nous renvoie aussi sûrement à cette image qu'un enfant qui... Si mon enfant va bien, si je suis une bonne mère, mon enfant ne doit pas pleurer. Donc, en faisant en sorte que mon enfant ne pleure pas, c'est peut-être aussi une façon, moi, de me rassurer dans mon rôle de parent.
Bien sûr. Charlotte, vous nous avez parlé de l'entourage, voilà, des remarques de l'entourage, des phrases, des fausses croyances. Alors, vous nous avez dit, fais ses poumons, faut le laisser pleurer pour qu'il fasse ses poumons. J'entends beaucoup, voilà, mes patientes me dire, on me dit qu'il fait un caprice, voilà, qu'il fait ça pour nous embêter, qu'il va prendre mauvaises habitudes si on l'aide à s'endormir. Qu'est-ce que vous en pensez, Aurélie?
J'ai rarement vu dans mon cabinet des parents d'enfants de 18 ans qui étaient là à côté de leur enfant pour les endormir encore à cet âge-là. Donc non. tout ça, en effet, ce sont des fausses croyances. Moi, ce que je constate, c'est que ces phrases, elles sont là pour justifier peut-être que certaines mamans qui ont entendu ça, elles ont écouté, elles ont dit « Bon, ok, on m'a dit que mon bébé faisait des caprices, donc je vais le laisser dans son lit et pendant tant de temps. » Et au bout d'un certain temps, en fait, dans leur trip, elles me disent « Mais c'était horrible, c'était insupportable de le laisser comme ça. » Et donc, il y avait vraiment cet élan de maman, j'ai envie de dire, d'aller voir, ou de papa, d'aller voir son petit, là, qui était en détresse. Et ce que je vois, c'est que plus on répond présent et plus ça va aller. Et ces croyances, peut-être aussi, c'est une façon de se protéger en disant, il fait des caprices comme ça. Moi, ça veut dire que j'ai bien fait en tant que parent. Donc, continue à faire comme moi j'ai fait. Comme ça, moi, ça me remet pas en question dans mon rôle de parent et dans ce que moi j'ai pu faire avec toi, éventuellement si t'es mon enfant. C'est une protection aussi. Donc, c'est vrai que ça demande, par rapport à sa famille et par rapport à l'environnement, ça demande d'être bien accroché et bien au clair. C'est d'où l'importance de s'entourer de bonnes personnes avec qui on peut justement partager, se sentir soutenu, et surtout quand l'entourage ne va pas du tout dans notre sens et a plutôt tendance à nous remettre en question en disant « mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est n'importe quoi ». Sachant qu'un bébé ne fait pas de caprices. Alors ça, vraiment, je le dis, je le répète, les caprices, c'est très tard en fait, mais c'est quelque chose que les adultes posent sur l'enfant pour justifier peut-être leur posture un peu de pouvoir sur lui en disant « non, je vais le faire rentrer comme moi je veux, il va m'obéir, etc. etc. » Mais un bébé ne fait pas de caprice, il a besoin de ses parents. On ne voit pas les éléphants ou les mammifères mettre leurs petits de côté parce que je ne sais pas quoi. En général, les bébés mammifères sont toujours avec leurs parents jusqu'à ce qu'ils soient complètement autonomes. Donc c'est vrai qu'on a vraiment cette vision des choses qui est délétère, parce que ça correspond pas non plus à ce que les mamans ou les papas peuvent sentir aussi dans leur trip, et souvent ça crée aussi une discordance entre moi je sens ça, mais on me dit de faire ça, mais je vois bien que ça me plaît combien pas, mais je sais pas comment faire. Donc c'est important aussi de s'écouter, de se faire confiance sur moi, mon élan dit je vais aller voir mon bébé parce qu'il a besoin de moi.
Peut-être que l'enfant grandissant, on va peut-être l'accompagner aussi différemment, en tout cas qu'il y aura plus de distance, j'imagine.
Alors moi, dans ce que vous avez dit, Charlotte, je trouvais que c'était très intéressant en disant qu'aujourd'hui, votre enfant est plus grand et que c'est plus facile. Donc bien évidemment que en grandissant, on va être présent différemment, mais je reste moi persuadée que tant qu'il est petit, qu'il n'y a pas les mots, c'est important de répondre présent. Et d'accueillir, d'être là. Après, en grandissant, en effet, on peut lui dire, écoute, là, je vois que très fâché, mais quand il est triste, en général, on reste spontanément avec son enfant. Mais quand il est très fâché, parce que c'est une émotion, ça, qu'on a souvent du mal à accueillir, on peut lui dire, écoute, là, je vois que t'es très fâché. Si t'as besoin, tu peux exprimer ce que t'as exprimé. Moi, là, je continue à vaquer mes occupations. Si t'as besoin, je suis disponible. Mais en général, là, c'est pour des enfants qui sont plus grands, plutôt vers à partir, j'ai envie de dire, presque de 1 an et demi, 2 ans, en fait. Mais avant, c'est vraiment être disponible qui est important. Et les parents savent le sentir aussi.
Bien ouais. sûr. En tout cas, est-ce que peut-être vous pourriez nous préciser ce que c'est être disponible ? Parce que ouais. là, je pense à plein de mamans que j'accompagne qui, pour elles, être disponible, c'est être, alors je vais caricaturer un petit peu, mais collée à leur bébé. Que ça veut dire voilà, qu'il faut être tout le temps là. Est-ce que, en tout cas, moi, souvent, je les invite à accompagner, ça veut dire nommer, voilà, que l'enfant, il a le droit de pleurer, qu'il peut en avoir besoin, par exemple, pour s'endormir tout le soir, que c'est pas pareil de nommer les choses, de partir, de lui dire qu'on reviendra s'il en a besoin, que juste de fermer la porte. Voilà.
Bien sûr.
En tout cas, accompagner, c'est pas forcément que dans une présence physique, en tout cas. Exactement. C'est aussi dans les mots, dans la présence psychique, qu'on peut être accompagner son enfant qui est dans la pièce d'à côté. Et tout être avec lui, penser à lui, le soutenir, le valoriser dans ses compétences.
Oui, tout à fait. Mais dans ces cas-là, moi, c'est vraiment pour les enfants où il y a une réelle autonomie. Tant qu'il n'y a pas une réelle autonomie, que ce soit de pouvoir rester un peu seul, par exemple lire un livre ou jouer seul, l'enfant, il a besoin vraiment de sentir quelqu'un. Donc, 9 mois, il y a l'angoisse de séparation. Donc là aussi, c'est important de dire « je suis bien là ». Et après, autour d'un an, moi, je sens souvent qu'il y a quelque chose qui change au niveau de la dynamique dans la relation aussi. Parce que l'enfant, là, il commence à marcher, il commence à aller vers le monde. Et donc finalement... oui, quand il revient vers nous parce qu'il a un chagrin, bah oui, là on va le prendre dans les bras, on va l'écouter, etc. Oui, quand il est très fâché, qu'il fait une colère, qu'il est frustré, bah on n'est pas obligé de le prendre dans les bras, sauf s'il en a besoin. Mais en tout cas, on va l'inviter, on va dire, il a plus d'autonomie pour manifester ce dont il a besoin. Moi, c'est ça que je vois, c'est que ce qui fait la différence, c'est un bébé n'a pas l'autonomie pour dire là j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin que tu me laisses seule ou etc. Par contre, un enfant à partir de 1 an, il sait manifester. Donc il s'est repoussé quand là il est dans sa colère et que juste il veut crier et tempêter, etc. Et en général il repousse les parents. Et donc c'est vraiment de se dire bon bah là ok, t'es en colère, t'es fâché, j'entends, moi je suis disponible si tu veux revenir me voir si t'as besoin d'un câlin après, mais voilà, tu peux sortir ce qu'il y a à sortir. Donc c'est vraiment quand l'enfant commence à pouvoir manifester lui, qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui lui convient pas en fait. Voilà. Ok.
Priscilla Dunston says that she has tested her baby language theory on over 1,000 infants around the world, all races and colors, and you believe that babies are talking to us.
Okay, the first word is ne.
Ne.
And this is the word for hunger.
Ne.
The next word is ow, and that's the word for sleeping.
Ah.
This is the word he, and you're listening for the H part of the sound.
Because he.
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 Charlotte, vous nous avez dit que vous auriez eu besoin finalement d'apprendre à décoder les pleurs de votre bébé. Alors là, je pense au livre qui a été préfacé par Isabelle Filiosa de Priscilla Dunston, Il pleure, que dit-il, voilà, qui a distingué, mais vous allez nous en dire un peu plus.
Mais toutes les mamans n'ont pas un radar à je comprends mon bébé, je connais tous ses pleurs et pouf, je les ai captés et c'est bon, et c'est pas toujours vrai. Parfois, on comprend pas et on n'arrive pas à percevoir les différents sons. Donc cette vidéo ou ce livre permet d'entendre et d'entraîner son oreille, j'aurais presque envie de dire. Et puis après, c'est d'accepter aussi de faire des erreurs. C'est OK, il manifeste qu'il a faim, vous entendez qu'il a sa couche qui est sale, bon, bah c'est pas grave, c'est pas un souci. Votre bébé, il a pas besoin d'avoir des parents, encore une fois, parfaits, il a besoin d'avoir des parents qui se trompent, qui font des erreurs, mais qui s'en rendent compte et qui peuvent réparer les loupés, on va dire. Donc c'est d'accepter qu'il y a différents sons, ça, et on peut s'entraîner à les percevoir, et après ça va être en fonction de chaque enfant. Je crois que c'est vraiment de capter les petites différences que ce bébé, il va le formuler de telle façon, l'autre telle autre façon, mais ça, c'est l'oreille, j'ai envie de dire, qui va apprendre à décoder.
Quels repères on pourrait donner aux parents pour, à quel moment faut s'inquiéter? Alors, souvent, j'ai entendu dire quand un bébé pleure plus de 3 heures par jour, pendant 7 jours. Alors, voilà, ce sont des repères un peu normés. Aurélie, vous nous avez dit généralement que le parent le sent, en tout cas, l'importance qu'il se fasse confiance. Ouais. Quel autre repère on pourrait donner aux parents pour, s'alerter, quand on est peut-être dans quelque chose un peu plus inquiétant, ou qui vient dire autre chose, qu'un besoin physiologique?
Bah, je pense que c'est déjà de dire, est-ce que j'ai tout tenté? Est-ce que je lui ai donné à manger, je l'ai changé, j'ai essayé de voir ce qu'il pouvait jouer. Quand j'ai essayé de mettre en place des choses pour l'apaiser, moi je pense que c'est plus la régularité des pleurs très rapprochés qui doit interpeller. Plus que 3 heures sur 7 jours, parce que 3 heures c'est quoi? J'ai accompagné des parents où leur bébé pouvait pleurer pendant 1 heure le soir parce que il y avait besoin de décharger, ou dans la journée pareil pendant 1 heure parce qu'il y avait eu quelque chose d'intense qui s'était passé, un événement, etc. Donc 3 heures ça vient vite en fait par rapport à la vie d'un bébé. Maintenant c'est pour moi encore une fois c'est une histoire vraiment d'oreille. Je pense que vous ce qui vous a interpellé c'est qu'il y avait peut-être des pleurs aussi qui étaient différents.
Oui, mais c'est surtout la fréquence.
Et la fréquence très rapprochée. Mmh. Et moi, je serais plus là-dessus, sur la fréquence très rapprochée. Et dans ces cas-là, vraiment, c'est soit d'en parler à son pédiatre, soit vraiment de trouver aussi un professionnel ou des personnes avec qui, justement aussi, peut-être d'aller sonder cette... en disant, ça m'interpelle, ça m'inquiète, et vraiment là, de ne pas hésiter. Et en même temps, c'est peut-être l'occasion aussi pour dire que parfois, ce n'est pas évident. Enfin, c'est bien souvent sûr. Quand on dit, j'en peux plus, ou il pleure trop, c'est souvent aussi que ça vient dire quelque chose de soi, où on dit là j'en peux plus et finalement j'ai besoin d'aide.
Charlotte, vous nous avez dit que vous avez essayé plein de techniques pour apaiser votre bébé. Vous nous avez parlé du portage, du pot à pot. Quelles sont les autres techniques En tout cas, moi par exemple, j'entends en ce moment beaucoup de mes patients parler des bruits blancs, qui mettent l'aspirateur, le sèche-cheveux.
On a failli acheter un doudou qui faisait des bruits blancs à 90 euros. On était à ce point-là. On a cherché bruits blancs sur YouTube.
Il y a des playlists de bruits
blancs. Ça n'a pas fonctionné.
Ça dépend de chaque enfant encore. Ouais. Et après, c'est de se dire là, est-ce que l'idée, c'est d'empêcher mon enfant de pleurer parce qu'il ne faut pas qu'il pleure, ou c'est toujours mettre dans une juste mesure. C'est pourquoi pas des bruits blancs ou le portage, etc. Quand vraiment on sent que là, Mais c'est d'accepter aussi qu'à certains moments, ils ont besoin aussi de décharger. C'est important, c'est vraiment important que le risque de toujours trouver, on va dire, autre chose pour faire qu'il n'y a pas de pleurs, etc. C'est pas forcément juste non plus. Donc mettre, j'ai envie de dire, ces belles choses, parce que c'est la créativité des parents qui est nécessaire et qui donne l'impression aux parents de ne pas sentir impuissance. Et je fais des choses. Je mets une bouillotte, je l'emmène faire un tour. Donc bienvenue à tout ça. Mais parfois, c'est de se dire, est-ce que là, j'empêche mon enfant de pleurer parce que vraiment, ça vient réveiller des choses chez moi et que là, c'est douloureux pour moi et donc j'ai besoin qu'il s'arrête, en fait.
Alors du coup, ça m'interroge là sur qu'est-ce que le parent peut faire pour lui-même? Parce que vous avez dit toutes ces émotions désagréables, qu'est-ce qu'il peut faire pour lui-même pour s'aider aussi à traverser les pleurs de son bébé et puis à accompagner son bébé?
De pas rester seul, moi ça c'est vraiment de créer cette communauté autour de soi. C'est, j'aime bien cette phrase qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Et on l'a un peu perdu finalement. Donc, je crois les parents, c'est de se donner la permission de recréer son village avec les bonnes personnes qu'on souhaite pour justement aider son enfant à grandir. C'est un long chemin, j'ai envie de dire.
Oui, un long chemin où il ne faut pas hésiter à se faire, à s'entourer, à se faire accompagner. Moi, je dis souvent, parfois, quelques entretiens, quelques consultations, ça permet de décoder, de soulager le bébé qu'on a été et qui, peut-être n'a pas été accueilli et entendu dans ses pleurs. Et puis, trouver quelques outils pour pouvoir faire face à ces situations.
Et même vraiment ponctuellement, parce que c'est... et aussi, parfois, d'aller voir un professionnel ou quelqu'un, ça peut être juste au moins de valider quelque chose au niveau de sa légitimité de parent. De se dire, moi je fais comme ça, mais je vois bien que je me sens pas complètement au clair, je sens qu'il y a une partie de moi qui me dit bah non, et pourtant je sens que c'est ça, et d'aller voir quelqu'un, justement, ça peut permettre de dire bah si, en fait, ce que je sens en moi, c'est ok, et donc je peux continuer, en fait. Donc c'est, voilà, de pas hésiter à trouver quelqu'un qui peut justement légitimer votre senti et les choix que vous faites pour accompagner votre enfant.
Ok. Souvent, je recommande des lectures ou voilà, des conseils à mes patients. Est-ce que, Charlotte, vous auriez...
Oui, alors j'ai un livre qui m'a beaucoup aidée, c'est Le cerveau de votre enfant, de Daniel Siegel,
oui.
Qui est très bien fait, facilement
accessible
etc. Et il y a aussi, alors ça c'est pour un peu plus tard, mais à partir de plus de un an, mais j'ai tout essayé d'Isabelle Filioza, là aussi très accessible et qui permet de décrypter certaines situations en fait.
Ok, voilà. Merci Charlotte. Aurélie, est-ce que vous auriez voilà, une recommandation ou un conseil ?
Alors moi, sur les pleurs vraiment, il y a les livres d'Aletta Salter, donc « Pleurs et colères des bébés et des enfants » qui est très riche, vraiment, où elle explique beaucoup de choses autour de ça. Et elle a fait un autre livre sur « Mon bébé comprend tout » et sur les compétences que l'enfant a innées aussi, donc lui faire confiance. Et après, pour vraiment comprendre ce qui se joue dans le cerveau et de l'importance de la présence et de l'accompagnement et de voilà de pas laisser pleurer seul un bébé, c'est il y a aussi Catherine Guéguen avec « Pour une enfance heureuse ». Et le film Le cerveau de l'enfant, qui est très intéressant aussi, justement, qui explique très bien les choses sur ce qui se joue dans le cerveau de l'enfant, quand il y a des émotions, que ça ne sert à rien de vouloir le raisonner, mais voilà, qu'il faut vraiment accepter que la tempête se passe.
Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Charlotte, d'avoir témoigné voilà, de votre vécu face aux pleurs de votre enfant. Merci beaucoup, Aurélie Roca. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et que vous travaillez à Puto. Vous accompagnez des parents dans leur parentalité. Merci à toutes les deux.
Merci.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.